Nous sommes lundi 24 juin 2024. Il est 7h en temps universel. Bienvenue dans le monde aujourd'hui. Au micro, Nanit Talani. Voici les principaux titres de cette édition. Un mort et 37 blessés hier à Rubavu dans le nord-ouest du Rwanda lors d'un meeting du parti du président Kagame. Au Niger, selon les autorités, un raid militaire a permis de neutraliser un cadre important du groupe État islamique. Une force de police kényane s'apprête à être déployée en Haïti pour combattre la violence des gangs. En économie, il sera question des projets hydroélectriques entre le Cameroun et la RDC. Puis en sport, des athlètes africains qui valident leur billet pour les JO de Paris. Tout d'abord, le journal. Au Rwanda, une bousculade a fait un mort et 37 blessés hier à Rubavu, dans le nord-ouest du pays, lors d'un meeting du parti du président Kagame à 3 semaines d'une élection présidentielle où il apparaît comme favori, a rapporté l'agence de radiodiffusion publique. Une personne est morte et 37 autres ont été blessés dans une bousculade qui s'est produite lors des campagnes du RPF Inkotani à Rubavu dimanche, rapporte l'agence rwandaise de radiodiffusion. Le Front patriotique rwandais est le parti du président Kagame. Le ministère des collectivités locales a demandé à ceux qui participent à la campagne de suivre les instructions et les règles destinées à assurer la sûreté et la sécurité, ajoute l'agence. La ville de Rubavu est proche de la frontière avec le Nord Kivu en RDC. Au Niger, l'armée dit avoir tué un membre de l'État islamique lors d'un raid militaire dans la région de Tillabéri dans l'Ouest où il est influent. C'est ce qu'elle a annoncé dans son dernier bulletin publié hier sur Internet, les précisions de Gabi Dorsil.
L'armée annonce avoir tué un certain Abdoulaye Suleiman Idoual, qu'elle présente comme membre influent de l'État islamique dans l'Ouest du pays. Il a été tué lors d'un raid militaire dans la nuit du 21 au 22 juin dans cette région près de Mehana, commune située dans le département de Terra, dit-elle. L'armée a également annoncé que 9 terroristes ont été tués et 31 autres arrêtés jeudi dans une opération anti-djihadiste au sud-est de Terra. Dans cette région, des combats opposent souvent les militaires nigériens aux djihadistes. Les civils de la zone sont fréquemment la cible d'atrocités commises par les djihadistes qui entraînent régulièrement d'importants déplacements d'habitants. La région de Tillabéri, située dans la zone dite des trois frontières entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso, est devenue un repère pour les djihadistes sahéliens affiliés à l'État islamique et à Al-Qaïda.
Au moins 7 personnes ont été tuées, une centaine d'autres kidnappées samedi soir, lorsque des hommes armés ont attaqué une communauté rurale de l'État de Katsina dans le nord-ouest du Nigeria. D'après les habitants, des hommes armés à moto sont arrivés dans le village de Maïdabino à Katsina et ont commencé à tirer. L'attaque a pris les habitants par surprise et des dizaines de familles d'enfants sont portées disparues. Le porte-parole de la police de l'État de Katsina, Boubacar Aliou Sadik, a confirmé l'attaque. Une force de police kényane part pour Haïti demain le 25 juin pour mener une mission soutenue par l'ONU destinée à combattre la violence des gangs dans ce pays des Caraïbes, ont indiqué hier des sources gouvernementales et policières. Les détails avec Rosine Munezero.
Le Kenya a proposé d'envoyer un millier de policiers pour stabiliser Haïti aux côtés de personnel envoyé par plusieurs autres pays. Le président William Ruto avait déclaré récemment que le déploiement, confronté à plusieurs recours en justice, se ferait d'ici quelques semaines. Les préparatifs sont en cours pour un départ de l'équipe pour Haïti mardi, a confirmé une source policière haut placée sous condition d'anonymat. Nous avons déjà 2 équipes préparatoires qui sont parties, une la semaine dernière et une autre samedi, selon la source policière. La mission a été approuvée par une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU en octobre dernier, mais au Kenya, l'opération a suscité de vives critiques et un tribunal kényan avait reporté le déploiement en janvier, le juge estimant que le gouvernement kényan n'avait pas l'autorité pour envoyer des policiers à l'étranger sans une autorisation spéciale. D'autres pays ont dit vouloir participer à la mission, dont le Bénin, les Bahamas, le Bangladesh, la Barbade et le Tchad.
Le président kényan William Ruto se dit prêt à une conversation avec des milliers de jeunes manifestants qui ont protesté la semaine dernière contre le projet de nouvelle taxe. Malgré deux morts annoncées par les défenseurs des droits humains, M. Ruto a également salué hier le pacifisme des jeunes. Nous aurons une conversation avec vous pour identifier vos problèmes et travailler ensemble en tant que nation, a assuré M. Ruto d'après son porte-parole Hussein Mohamed.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici, aux États-Unis, le président Joe Biden et l'ancien président Donald Trump s'affrontent jeudi soir à Atlanta dans un débat qui donne le coup d'envoi de la campagne électorale. Pour Trump, l'affrontement de 90 minutes est l'occasion de faire ressortir les inquiétudes sur l'âge de Biden, 81 ans. M. Biden, pour sa part, va souligner les défis juridiques auxquels M. Trump est confronté. Le chef de l'État fera également tout son possible pour éviter une gaffe majeure qui pourrait lui faire perdre les élections de novembre. À une semaine du premier tour des législatives françaises, le camp du président Macron cherche toujours à combler son retard sur la coalition de gauche et surtout l'extrême droite, grande favorite, en promettant changement et gouvernance plus près du peuple. Le point avec John Lindon.
Le président français Emmanuel Macron a promis dimanche d'agir jusqu'en mai 2027, fin de son mandat, même si son camp se trouve en posture délicate face à l'extrême droite à une semaine des législatives. Il admet que la manière de gouverner doit changer profondément à l'issue du scrutin. L'objectif ne peut être seulement de continuer ce qui a été fait. J'ai entendu que vous vouliez que cela change, a dit Monsieur Macron. De son côté, porté par la dynamique des Européennes, le président du Rassemblement national extrême droite, Jordan Bardella, a abordé la deuxième semaine de la campagne en jouant la carte de l'apaisement et du rassemblement. Moi, je veux réconcilier les Français et être le premier ministre de tous les Français sans aucune distinction, a-t-il déclaré hier. Selon deux derniers sondages, le Rassemblement national et ses alliés obtiendraient entre 35,5 et 36 % des voix devant le Nouveau Front populaire, une alliance de partis de gauche, 27 à 29,5 % et le camp présidentiel, 19,5 à 20 %.
En Nouvelle-Calédonie, plusieurs bâtiments dont un commissariat et une mairie ont été incendiés dans la nuit de dimanche à ce lundi, marqués par des affrontements entre indépendantistes et forces de l'ordre, faisant un blessé dans un regain de violence après 6 semaines de tension. Ce matin, de nombreuses écoles sont fermées en raison du regain de violence et la voie express menant à l'hôpital est bloquée des deux côtés. L'archipel est en proie à des troubles depuis le 13 mai qui ont déjà fait 9 morts, dont 2 gendarmes et des pertes chiffrées à plus d'un milliard d'euros. La Russie accuse les États-Unis d'avoir une responsabilité dans une frappe ukrainienne qui a tué 4 personnes et blessé plus d'une centaine d'autres en Crimée car elle aurait été conduite avec des missiles américains fournis à Kiev. De telles actions ne resteront pas sans réponse, a affirmé le ministère russe de la Défense dans un communiqué. Ni l'Ukraine ni les États-Unis n'ont pour leur commenté cette frappe à Sébastopol. Des hommes armés ont attaqué dimanche des églises orthodoxes et au moins une synagogue dans le Caucase russe, tuant 10 de personnes, ont annoncé les autorités, dénonçant des actes terroristes. Aucun élément ne permet de connaître les motivations ou les identités des auteurs de ces attaques qui semblent coordonnées. Une personne a péri et 21 autres en sont portées disparues ce lundi dans l'incendie d'une usine de batteries au lithium en Corée du Sud, selon les pompiers. Nous ne sommes toujours pas en mesure de pénétrer à l'intérieur et de mener des opérations de secours. Nous le ferons dès que possible, dès que nous aurons maîtrisé l'incendie, a déclaré à la presse un membre de l'équipe des pompiers sur place, Kim Ding-yong. Le président taïwanais Lai Ching-te a déclaré ce lundi que la Chine n'avait pas le droit de punir les Taïwanais après l'inclusion vendredi par Pékin de la peine de mort dans de nouvelles sanctions pénales visant les sécessionnistes taïwanais présumés. Pékin a rendu public vendredi de nouvelles directives judiciaires prévoyant donc la peine de mort pour des cas particulièrement graves visant des partisans irréductibles de l'indépendance de Taïwan, ont rapporté des médias d'État. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Passons maintenant à notre segment économique avec Nathalie Barge.
Au Niger, le gouvernement a révoqué le permis d'exploitation du gisement d'uranium détenu par le groupe français Orano. La décision est intervenue quelques jours après l'annonce de la reprise des opérations suspendues en 2015. Le permis pourrait être attribué à la compagnie russe Rosatom. L'entreprise sino-nigérienne Somina avait aussi annoncé en mai être en passe de reprendre sa production d'uranium interrompue en 2014. Selon l'Association internationale de l'hydroélectricité, l'Afrique possède le plus grand potentiel hydroélectrique inexploité au monde. L'hydroélectricité fournit 40% de l'électricité dans la région subsaharienne avec 42 gigawatts. Selon le rapport de l'IHA, l'Éthiopie est en tête avec 4825 mégawatts, suivi de l'Angola et de l'Afrique du Sud. En 2023, le Nigeria, l'Ouganda et la République démocratique du Congo ont ajouté 1530 mégawatts de capacité. Par ailleurs, au Cameroun, la centrale hydroélectrique de Naktigal, de 420 MW sur le fleuve Sanaga, devrait être entièrement opérationnelle d'ici la fin de l'année. En République démocratique du Congo, la centrale Busanga de 240 MW est opérationnelle depuis l'an dernier et la construction du barrage hydroélectrique Inga III, d'une capacité de plus de 11 000 MW sur le fleuve Congo, devrait débuter en 2026 pour être exploité en 2030.
Merci Nathalie pour ces informations économiques. Place à présent à l'actualité sportive présentée ce matin par Élisée Oupatin. Bonjour Élisée.
Oui, bonjour Nanita et bonjour à tous.
Euro de football et l'Allemagne finit en tête de son groupe.
Oui, après avoir évité de justesse la défaite face à la Suisse lors de la troisième journée des matchs de poule, une Allemagne peu inspirée a obtenu sur le fil du rasoir un nul 1-1 pour finir première du groupe A avec 7 points, 2 de plus que la Suisse qualifiée aussi pour les huitièmes de finale. La Hongrie, vainqueur 1-0 de l'Écosse en toute fin de match, pourrait aussi se qualifier en tant que meilleur troisième. Deux matchs également au programme ce lundi dans la poule B, à 19h temps universel. L'Espagne déjà qualifiée joue l'Albanie à Düsseldorf et à la même heure, la Croatie et l'Italie vont s'affronter au stade de Leipzig.
Direction le Bénin, Coton FC remporte le championnat pour la troisième saison d'affilée.
C'est suite à sa victoire 2-0 sur son dauphin d'Alger FC Daplaroué à l'issue de la 24e et dernière journée de la Super League Pro. Tenant du titre, le club de Ouida garde son bien pour la troisième fois de suite au terme d'une saison difficile, reconnaît son entraîneur, le français Vitor Zvonka.
C'est extraordinaire ce qu'on a fait, parce que on finit avec 4 points d'avance sur Djadier, on finit pratiquement avec 10 points sur Lotto. À une période de la saison, on avait 10 points de retard. Donc je crois que c'est ce qu'on en a fait, c'est exceptionnel, voilà. Donc ça a été un match un peu fermé, et ça s'est joué sur ces détails, voilà. Il y a contre-attaque, lucidité, faute de main du gardien, voilà, ça nous permet de garder notre titre.
À l'instant, Vitor Zvonka, entraîneur de Coton FC de Ouida, qui finit donc en tête avec 51 points, à 4 longueurs de Dadjer FC classé deuxième. Les deux équipes représenteront le Bénin aux prochaines compétitions africaines des clubs.
Élisée, à un peu plus d'un mois des Jeux Olympiques, les athlètes africains s'activent lors des championnats d'Afrique à Douala, au Cameroun.
Une 23e édition marquée par des critiques en raison de problèmes majeurs d'organisation. Ces Jeux représentent l'une des dernières chances pour les athlètes afin qu'ils valident leur billet pour les Jeux Olympiques de Paris. Et c'est un jour de finale hier. Sur les 400 mètres, c'est le Sénégalais Cheikh Diouf qui s'offre l'or au niveau des hommes et la Sud-Africaine Miranda Kwizwe chez les dames. Le 400 mètres a été remporté par le Botswanais Victor Ntwang. Le 800 mètres hommes et dames par le Kenya. C'est Alice Kipkedich et Sarah Orobi qui sont montés sur la plus haute marche du podium. Et puis l'Ougandais Leona Chemutai finit en or sur les 3000 mètres type homme.
êtes à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Nanit Talani, toujours en votre compagnie. Avant de mettre un terme à ce journal, explorons d'abord nos dossiers du jour. Au Rwanda, lancement de la campagne électorale en vue des présidentielles du 15 juillet prochain. Le président Paul Kagame fait face à deux opposants qui se déclarent confiants de battre le FPR au pouvoir depuis 30 ans. De Kigali, voici le reportage de Jean Damascène Manishimwe.
Le président Paul Kagame a choisi le nord-ouest du Rwanda pour débuter ses activités de campagne électorale. Devant les membres de son parti FPR, mais aussi de 8 autres partis qui soutiennent sa candidature, Paul Kagame s'est félicité des réalisations de ces 30 dernières années. Le président rwandais a fustigé ses détracteurs, qu'il accuse souvent de museler ses opposants.
Démocratie. La démocratie signifie choisir ce qui te convient et ce que tu veux et en toute liberté. En démocratie, personne ne doit choisir en ta place. Tu fais le choix de toi-même. C'est le sens de la démocratie ici. Et ceux qui nous ont donné le concept de démocratie devraient le comprendre ainsi. Car chez eux, personne ne choisit pour eux. Ainsi, ils ne devraient pas non plus se donner le droit de choisir pour les autres.
Pour sa part, le Parti démocratique vert a débuté ses activités de campagne électorale dans la ville de Kigali. Franck Habineza, candidat de son parti à la présidentielle, s'est déclaré confiant de remporter, vu son programme qui, selon lui, vise une transformation radicale de la vie socio-économique des Rwandais.
Nous avons encore le problème des gens qui ne mangent qu'une fois par jour. Il y en a même qui ne donnent que de la bouillie à leurs enfants. Nous allons allouer un budget suffisant à l'agriculture et à l'élevage qui font vivre plus de 90% de la population rwandaise. Nous augmenterons aussi bien la quantité que la qualité de la nourriture. Nous nous appliquerons aussi à la lutte contre le chômage chez les jeunes en particulier. Nous construirons des petites usines de transformation agroalimentaire dans 416 secteurs du pays.
Face à ces deux partis politiques, Philippe Maïmana est un candidat indépendant qui espère que son programme politique lui permettra de remporter les élections.
La nouveauté, c'est surtout renforcer et le rôle de notre pays dans le développement de l'esprit panafricain. Je suis optimiste par rapport à mon projet et je ne mesure pas la capacité de mes concurrents. Hein. Déjà, l'essentiel, c'est que je ne les prends pas comme des adversaires, donc je n'ai pas à craindre.
La campagne lancée devrait se terminer le 13 juillet prochain, soit 2 jours avant les présidentielles, qui rappellent celles de 2017, où le président Kagame était aussi opposé à ses deux rivaux actuels. Jean Damascène Manishimwe pour VOA Afrique, Kigali.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
Au Cameroun, les frais de timbre pour la délivrance d'une carte nationale d'identité passent de 2 800 à 10 000 francs CFA. Cette augmentation n'est pas du goût de tous les Camerounais, dont certains hommes politiques. Les autorités affirment qu'avec ce nouveau barème, la nouvelle carte nationale d'identité va être délivrée en 48 heures dès la fin de l'année 2024. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Juntap.
Beaucoup de Camerounais trouvent que le nouveau prix est disproportionné par rapport au pouvoir d'achat du citoyen moyen. Trifine Tumenang est responsable d'une billetterie à Yaoundé.
Si un Camerounais moyen touche un salaire d'environ 40 000, débourser 10 000 pour obtenir une carte d'identité, vraiment c'est énorme. Je pense qu'on devrait revoir.
Pour de nombreux jeunes dans le secteur informel, l'État n'assume pas ses responsabilités en augmentant le prix du timbre pour la délivrance d'un titre identitaire. Brice Arsène, Malaga.
Pourquoi 10 000 ? C'est trop, c'est beaucoup trop. Le truc, c'est que 10 000 pour un Camerounais moyen qui se débrouille pour sa propre carte de son identité, c'est son pays. Il n'a pas fait un concours pour être Camerounais. Il est là, il est Camerounais, vous devez lui donner sa carte. Il n'a pas déboursé autant d'argent, on n'a pas souffert autant.
10% des frais de recette issus sur la carte nationale d'identité vont être reversés à l'administration et les 90% au prestataire technique qui va produire cette pièce officielle. Emmanuel Combe, jeune chef d'entreprise.
C'est suicidaire parce que la carte d'identité, le timbre passe de 2800 à 10 000 francs. Vraiment, le Camerounais lambda ne pourra pas s'en sortir. La preuve par trois, que les caisses de l'État sont vides.
Pour notre frange de la population, avec ce nouveau prix, l'essentiel est que la carte nationale d'identité soit délivrée en 48 heures.
Aujourd'hui, alors, s'il faut délivrer la sienne après 48 heures de temps, je crois que c'est une bonne solution. Et puisque le problème, ce n'est pas de l'argent, le problème, c'est la disponibilité de la CNI, comme je l'ai dit au départ. Donc, moi, à mon avis, je pense que c'est une très bonne initiative.
Un point de vue que partage Benjamin Mbassi, conducteur de moto-taxi.
2800 à 10 000 en 48 heures, c'est normal. C'est normal. Parce qu'avant, là, pour avoir la carte, les gens passaient les 5 ans, les 10 ans sans avoir la carte. C'est comme ça qu'ils ont tout le temps. Les agents qu'ils ont même dépensé, ça a dépassé les 10 000. Mais si ça sort à 10 000 à 48 heures, c'est bon.
L'opposant Maurice Kamto, ce nouveau prix du thème de la carte nationale d'identité est, je cite, une strangulation des Camerounais avec les impôts, taxes et droits de timbre, fin de citation. Pour sa part, le 13 mai dernier, Labino Caretti, directeur général de la société en charge de mettre en place ce nouveau système d'identification, a justifié le projet.
C'est un projet clé en main qui consiste à la construction de 68 centres multifonctionnels ultramodernes à travers les 10 régions et les 58 départements. En plus, on va rénover 219 postes actuels d'identification. On va mettre en place une structure moderne. Il y a tout qui va changer. Ça va commencer par une application en ligne dématérialisée, prise de rendez-vous en ligne. On va assurer aussi l'expédition des cartes à travers tous les postes d'identification dans le territoire camerounais.
Près de 12% de Camerounais sont concernés par la double, voire la triple identité, selon la police nationale. Emmanuel Junta pour VOA Afrique, Yaoundé.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Au Niger, les autorités militaires ont retiré la semaine dernière à la société française Orano, ex-Aruva, spécialisée dans l'exploitation de l'uranium, le permis du gisement d'Imouraren, un des plus grands au monde. La décision intervient dans un contexte de tension entre la France et le Niger. Notre correspondant à Niamey, Abdoul Razak Idrissa, a recueilli quelques réactions d'acteurs du secteur minier.
En tant que syndicat, nous saluons et nous accompagnons cette mesure qui a été prise.
Idrissa Abouzedi Mahaman est un des responsables du syndicat du personnel de l'administration des mines du Niger.
Si un permis de la mise en exploitation a été prévu et au plus tard en janvier 2011, que jusqu'à présent, rien n'a été fait sur le terrain. Si nous avions commencé depuis 2011, c'est-à-dire avec l'exploitation, avec ce qu'on va avoir, les 5000 tonnes par an, et ça aurait pu rehausser l'économie du Niger. Ça aurait pu créer des milliers d'emplois.
L'annonce du retrait de ce permis a rendu fiers beaucoup de Nigériens, dont Maria Amadou, activiste.
C'est une grande fierté pour nous parce que depuis longtemps nous avons attendu ça. Depuis 2014, Imouraren devait tomber dans le patrimoine nigérien. Nous ne pouvons que remercier le CNSP qui, de jour comme de nuit, chaque jour est en train de poser des actes qui ne font que grandir le Niger, qui ne font que ressortir la souveraineté que nous cherchons depuis longtemps.
Du côté de la société civile active dans le domaine des industries extractives, on salue également cette décision. Chiroma et Samy, chargé des programmes et projets du réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire ROTAB.
Nous, en tant qu'acteurs, donc, œuvrant dans le domaine, nous pensons que ça va de soi. Les autorités ont appliqué donc, les dispositions de la loi minière. C'est vraiment une bonne chose. Ça va permettre maintenant à une autre société qui est prête à procéder à l'exploitation de bénéficier des droits miniers sur ce périmètre. Une fois aussi ces droits miniers-là acquis par une autre société qui peut procéder à l'exploitation, nous pensons que ça va vraiment être bénéfique à l'État du Niger, aux populations du Niger et même au marché international de l'uranium dans cette période vraiment de forte demande.
Orano, dans un communiqué, se dit disposé à maintenir ouverts les canaux de communication avec les autorités du Niger, tout en se réservant le droit de contester la décision devant les instances judiciaires compétentes nationales et internationales. Pour sa part, le ministère français de l'économie indique que la sécurité d'approvisionnement du pays en uranium n'est pas menacée, le gisement en question n'étant absolument pas critique. Abdulrazak Idrissa pour VOA Afrique, Niamey.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
On séjourne en Mauritanie, Bakary Tondia, président de la Commission des droits de l'homme et des immigrants, basée à New York, ici aux États-Unis, a réagi sur la nouvelle mesure de l'administration Biden sur l'immigration. Pour Bakary Tondia, c'est un avantage considérable pour les familles des immigrés. Cependant, il affirme que la mesure est loin de régler le problème des immigrés, surtout ceux de la diaspora africaine. Bakary Tondia a été contacté au téléphone par Georges Léonard Sagnot. Suivez.
Environ 500 000 personnes qui ont illégalement accédé au territoire américain, qui sont mariées à des citoyens américains pour régulariser leur situation, ainsi qu'environ 50 000 enfants qui sont dans la même condition. C'est un avantage considérable parce que dans les conditions normales, ces personnes allaient être obligées de quitter le territoire américain pour aller remplir les formalités administratives dans le pays d'origine. Donc, ça allait créer des décharges financières et en plus, une fois qu'on est hors du territoire américain, les choses deviennent beaucoup plus complexes, beaucoup plus difficiles, avec moins de protection légale. Donc, c'est un avantage considérable pour permettre à ces familles hybrides d'avoir une situation légale, une situation humaine.
Qui est vraiment concerné par cette mesure?
Comme vous le savez, il y a environ 1,1 million citoyens américains qui sont mariés à des personnes qui sont dans cette situation. La mesure, elle est importante, mais elle est loin de régler le problème de l'immigration. L'avantage pour ces personnes-là, ils seront éligibles à travailler et ensuite avoir leur green card. Et après l'obtention de la green card, ils seront également éligibles à introduire des demandes de naturalisation, ce qui est extrêmement important pour leur famille.
Comment cette nouvelle mesure de l'administration Biden sur l'immigration va-t-elle affecter la communauté africaine, surtout la diaspora africaine basée à New York?
Pour répondre spécifiquement en comparaison à la situation nouvelle que nous connaissons, les Africains qui rentrent illégalement à travers la frontière mexicaine, et par exemple le cas de la Mauritanie actuellement, nous avons selon le New York Times, plus de 15 000 citoyens mauritaniens ont traversé la frontière illégalement. Malheureusement, ceux qui rentrent à travers cette frontière ne seront pas couverts. Donc, tous les Africains qui viennent de traverser la frontière ne seront pas éligibles pour cette mesure. Donc, son impact est très, très, très limité.
Quels sont, selon vous, les autres personnes de la diaspora africaine dont le sort n'est pas résolu par cette nouvelle mesure?
La décision étant pas positive, mais elle est loin de régler la crise de l'immigration aux États-Unis. Comme vous le savez, environ 12 millions de personnes sans papier vivent sur le territoire américain. Plus de deux décennies, les défenseurs des droits des immigrants lutte pour qu'il y ait une réforme pour régulariser la situation de ces personnes-là qui sont de facto des Américains parce qu'ils travaillent, ils produisent, ils payent leurs taxes. Bon, malheureusement, au niveau du Congrès, cette crise n'a pas pu être résolue dans le cadre d'une réforme compréhensive de l'immigration. Voilà.
La majorité écrasante des personnes en situation irrégulière ne sont pas couvertes par cette mesure.
Voilà qui conclut notre journal pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis sur VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de rédaction et de production pour leur travail acharné. À la présentation, Nanit Kalani, à la mise en onde, Georges Léonard Sagnot. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de nos programmes. À bientôt.